Bonjour, je suis Daniel Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo, afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques jeunes ou établies à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Après une courte pause, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast en compagnie de Christophe Terrin, qui est le cofondateur de la marque Inga. Alors Inga, c'est l'idée de Benjamin Bière qui avait lancé plusieurs entreprises avant celle-ci et qui voit dans le marché des produits d'entretien un manque, c'est qu'il n'existe pas d'essuie-tout lavable et réutilisable. En tout cas, lui, il n'en trouve pas et c'est là que lui vient l'idée de se lancer sur ce marché avec un essuie-tout lavable et durable surtout. Quelques mois plus tard, Inga est né et Christophe rejoint l'aventure pour l'aider sur le marketing. Ensemble, ils lancent une campagne de crowdfunding à l'été 2022. 6 mois plus tard, cette campagne Ulule a explosé tous les records et ils lancent leur site en 2023 avec Facebook Ads comme fer de lance pour leur acquisition. Et très vite, ils s'aperçoivent que l'essuie-tout n'est pas ce qui se vend le mieux sur la plateforme, ce sont les éponges qui ont été lancées dans un second temps. Et donc j'ai reçu Christophe, que je connais un peu, c'est un appel d'offres, pour me parler de cette insolente réussite sur Ulule, mais également sur Facebook Ads. Et en passant, on a évoqué leur passage sur Qui vote mon associé qui a fait beaucoup de bruit en janvier 2024. Et donc ce sera le programme de la première partie de l'épisode où on se focalise vraiment sur le lancement de la marque Inga, sur leur stratégie de go-to-market, sur leur positionnement, sur la mise en place et tout le marketing derrière leur campagne de crowdfunding de tous les records sur Ulule devant Respire ou encore 900K, et on est revenu surtout sur leur passage sur Qui vote mon associé cette année où Benjamin a fait beaucoup de bruit sur LinkedIn pour capitaliser sur le passage. Donc on est revenu avec Christophe sur les retombées directes et indirectes de ce passage pour leur marque, et je peux vous dire qu'il y en a eu. Et on est revenu également sur la stratégie adoptée sur le digital pour capitaliser sur cette opportunité, donc notamment les offres qu'ils ont mis en avant sur le site également qu'ils ont préparé spécialement pour l'émission, leur stratégie de retargeting sur Facebook et également la gestion de leur budget Meta Ads. Et justement, la semaine prochaine, vous allez découvrir toute la stratégie Facebook Ads de Inga qui leur a permis de démultiplier leurs dépenses et atteindre des budgets assez importants en une année à peine. Et ça, je pense, ça devrait vous rappeler un épisode qu'on a enregistré l'année dernière avec Aymeric Grange, le cofondateur de 900K. Voilà pour le programme de cette première partie d'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Salut Christophe et bienvenue sur le rendez-vous marketing.
Salut Daniel. Ouais.
Je suis ravi de t'avoir. Je connais Inga depuis maintenant une petite année, hein, quand on a commencé à se contacter pour éventuellement travailler ensemble. Alors finalement, ça s'est pas fait, mais j'ai quand même suivi encore votre parcours, ce que vous avez mis en place, le Qui vote mon associé également. Donc beaucoup de sujets, et j'ai vu que vous avez pas mal grandi depuis qu'on s'est parlé. Donc je me suis dit que ça serait parfait de t'inviter sur le podcast, à la fois peut-être de comprendre un peu la marque, comment vous êtes lancé, puis après de voir l'effet que Qui vote mon associé a eu sur la marque, et puis après comment on le fait souvent sur les podcasts de rendez-vous marketing, on parlera d'acquisition et de rétention. Mais du coup, pour démarrer, je veux peut-être que tu puisses peut-être te présenter et présenter Inga en même temps, et puis après on enchaîne sur votre stratégie de go-to-market.
Ça marche, merci Danilo. Alors moi c'est Christophe, je suis cofondateur de Inga. Avant Inga, j'ai travaillé pendant longtemps chez 55, qui est une agence de conseil dans le digital et la data. Donc j'ai accompagné plein de boîtes, des startups, des grands groupes, des fonds d'investissement aussi, sur la définition et le déploiement de leur stratégie digitale, voilà, avec un fort accès data marketing. J'ai rejoint l'aventure Inga au tout début. En fait, Benjamin, donc mon associé, avait déjà monté une boîte avant qui s'appelait Culture in the City, qui l'a revendue à Wonderbox, qui existe toujours d'ailleurs. C'était des coffrets cadeaux culturels. Et après cette première boîte-là, il voulait remonter une boîte avec l'ambition de faire un truc plus mass market. On reviendra après sur la plateforme de marque. Mais il a beaucoup réfléchi, il a regardé un peu les différents marchés. En parallèle, il s'est rendu compte via son expérience personnelle qu'il utilisait beaucoup trop de sopalin pour donner à manger à ses enfants. Et il s'est dit, voilà, il y a il y a peut-être un truc à faire sur des alternatives aux produits jetables du quotidien. Il a regardé un peu ce qui se faisait sur les essuie-tout et il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose à part quelques petites initiatives de créateurs sur Etsy ou autre. Et donc, il a décidé de lancer une campagne sur Ulule. Là, j'arrive sur la partie go-to-market, un peu plus vite, hein. Mais il a décidé de lancer une campagne sur Ulule pour valider le concept. Au début, c'était vraiment une première campagne test avec très peu de moyens mis dans la marque, très peu de moyens mis dans l'acquisition. Enfin bref, c'était vraiment en mode POC. Et ça a plutôt bien marché. Et c'est à ce moment-là qu'il est venu me chercher. Il s'est dit, OK, j'ai un concept qui tient à peu près la route. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de constituer une équipe. Donc, il est venu me chercher. Il m'a contacté sur LinkedIn. Donc, voilà, c'est un peu le Tinder du monde pro. Moi, j'étais à l'époque encore en poste. Et il me contacte en me disant, j'ai envie de monter une boîte de d'essuie-tout et d'éponge, est-ce que ça t'intéresse? Dit comme ça, je me suis dit, oula, je ne sais pas trop si c'est vraiment le secteur qui m'intéresse. Ça ne donne pas forcément envie au premier abord. Mais très rapidement, quand on a échangé ensemble, je me suis rendu compte d'une part que voilà, il avait un bagou assez important, beaucoup d'ambition, et en termes de business, en termes d'impact. En termes aussi de marque, on va venir aussi, mais sur la marque, c'est un des aspects qui aujourd'hui m'excite le plus. Alors qu'au début, je pouvais avoir un peu des réticences à me dire, OK, je vais devenir un vendeur d'éponge, quoi.
Vendeur d'éponge, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que peut-être que tu parles un peu d'Inga. Je comprends l'initiative d'avoir utilisé Ulule comme plateforme pour valider un peu son product market fit, même son concept de manière générale. Peut-être rapidement positionner Inga en tant que marque, ce que vous proposez comme produit. Et c'est vrai qu'en effet, Inga, c'est, je trouve, une belle marque. Et comme tu disais, ils ont réussi en fait à, enfin, vous avez réussi, pardon, à rendre quelque chose de pas très séduisant, donc les éponges sur le coup, les essuie-tout, quelque chose de sympa, t'as envie de les acheter, c'est joli. Et je sais que c'est un gros travail que vous avez fait sur la marque, tout comme on fait d'autres marques comme Respire, Feed et toutes les autres qui sont peut-être déjà que vous connaissez sûrement.
Ouais, complètement. Alors, en fait, donc Inga, on est une marque d'éponges et d'essuie-tout lavables, utilisables. Et on s'est donné pour envie, pour pardon, on s'est donné pour mission, pardon, j'en reprends, on s'est donné pour mission de donner envie au maximum de personnes de passer du jetable au durable. Donc, il y a deux choses importantes, il y a donner envie et au maximum de personnes. Donner envie, comment tu fais? Bah, avec un univers de marque qui est un peu sympa, coloré, pop, décalé, une communication un peu, voilà, un peu fun, décomplexée et de l'autre, des produits qui soient certes durables, parce que c'est la promesse, et c'est dans l'émission, mais qui soient aussi efficaces, pratiques et économiques. Ça, mais on part de produits qui sont des produits ménagers. Tu ne peux pas juste être satisfaisant sur la promesse de durabilité. Sinon, en fait, tu vas toucher que la cible des écolos convertis ou des écolos militants. Mais si tu veux vraiment toucher le mass market, et c'est du coup la deuxième partie de la mission, donner envie au maximum de personnes, le maximum de personnes, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde. Il faut que tes produits soient efficaces, pratiques et économiques. Voilà.
Efficace,
C'est la
pratique, ok.
première. C'est le travail qu'on a mené, en fait, c'est le premier travail qu'on a mené ensemble avec Benjamin et Thibaut. Une fois que le POC avait été validé, à l'époque, Inga, c'était pas du tout ce que tu vois aujourd'hui. On avait juste un seul produit qui était les essuie-tout. Il n'y avait pas d'image de marque vraiment très travaillée et tout ça. Donc, on a fait ce travail-là de définition de la plateforme de marque, et je pense que c'est une de nos c'est une chose qu'on a bien faite au début, parce
De
que aujourd'hui
force, ouais.
même ouais, la même de marque, c'est vraiment une de nos forces, parce qu'on s'y réfère toujours, mais c'est un cap dans plein de décisions stratégiques qu'on peut prendre.
Ouais, j'ai plusieurs choses là-dessus. Bah, déjà, la plateforme de marque, je suis d'accord qu'elle est top, elle est vraiment reconnaissable et on la comprend assez facilement. Ce que tu m'as dit là, je l'avais vite compris quand tu m'avais contacté il y a, je sais plus combien, pratiquement un an. Et autre chose, je trouve, c'est que Christophe, Benjamin, personnifie bien la marque. Et je trouve qu'au départ, on le voyait pas forcément beaucoup. Et je trouve que sur LinkedIn, on le voit de plus en plus. Je pense qu'on le voit également sur le site, hein, si je dis pas de bêtises, il passe sur les médias. Et ça, on sait que quand tu veux créer une marque forte au début en D2C, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui personnifie la marque. Et ça, c'est quelque chose que vous faites bien également. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait beaucoup au début ou est-ce que c'est plutôt venu après? Voilà. Dis-moi ce que t'en penses.
Alors, c'est un super point parce qu'en fait, c'est un débat qu'on a en interne. On se pose régulièrement la question. Il y a plusieurs choses. Déjà, on a créé une gamme, on s'est dit on ne voulait pas te remettre en avant, Benjamin. Si tu regardes sur la vidéo Ulule qu'on a réalisée pour la deuxième campagne, qui est la vraie campagne, on a vraiment du coup fait notre vrai go-to-market. J'en parlerai. Il n'y a pas Benjamin. Ouais. On l'a très peu mis en avant. Nos ads, il n'est pas si présent que ça, si tu regardes ou si tu compares par rapport à d'autres DNVB, ou 900 guerres. Pourquoi ? Parce qu'on avait peur de trop associer la marque à Benjamin. On pense que c'est bien, mais ça crée aussi une Benjamin dépendance qui, pour l'objectif qu'on s'est fixé, nous, de créer un mastodonte qui puisse d'ailleurs être vendu aussi à terme à un industriel, pas forcément quelque chose de positif. Après, il y a un juste milieu à trouver, et clairement, qui va être mon associé, il y a une forme de personnification de la marque naturelle qui s'installe. Il faut surfer sur la vague, donc c'est la raison pour laquelle on a pas mal accéléré sur le personal branding autour de Benjamin, qu'on met un peu plus en avant Benjamin dans nos ads. Mais voilà, on essaie de faire attention à ça, c'est un truc qu'on regarde, pour pas trop se mettre non plus en avant Benjamin.
Ouais, je comprends. Mais je suis d'accord, il faut trouver un peu le bon juste milieu, parce que t'as des marques qui sont trop dépendantes d'une personne. Évidemment, celle qu'on a tous en tête, c'est Respire, donc c'est dangereux, je trouve. Mais en même temps, c'est ce qui fait leur force. Donc, moi, je vais pas critiquer, dire que c'est pas bien. C'est juste, peut-être un jour, si un jour elle veut.
Voilà.
Tu disais ?
Non, c'est à double tranchant. Si demain Respire veut s'amener, je sais pas s'ils le font d'ailleurs. C'est peut-être plus difficile aussi, parce que je sais pas si tout le monde connaît Justine en Espagne ou en Allemagne. Voilà. Donc. Mais c'est une force, c'est indéniable que c'est une force au début. Après, il faut arriver à faire la transition.
Je suis d'accord. Ok. Mais en tout cas, très clair. Et l'autre sujet que j'avais, c'était, en fait, sur le coup, si je me rappelle bien, après tu me confirmes, c'est que votre produit qui est le plus fort, c'est l'éponge.
Complètement.
Mais vous n'avez pas démarré avec ça. Vous avez démarré avec des essuie-tout. Ça, c'est aussi intéressant, le sujet de se dire, ok, bon, on commence avec un produit et finalement, on a un autre qui fonctionne mieux. Et je ne sais pas comment vous l'avez découvert. Je suppose simplement en observant la courbe des ventes sur le Shopify. Mais voilà, donc, ça, c'est assez intéressant.
C'est une des raisons pour laquelle aussi on a refait une campagne sur Ulule. Pour refaire l'histoire, on a première campagne Ulule avec peu de moyens sur un seul produit pour essayer de valider un concept. Derrière ça, on va lever un peu des fonds. Vraiment, c'est un précis, on va dire, pour aller investir un petit peu dans la marque et pouvoir commencer à faire des choses. Et on relance vraiment, du coup, la marque avec la plateforme de marque, la nouvelle DA et 4 produits sur Ulule. Les 4, donc les essuie-tout, les éponges, les cotons démaquillants et les mouchoirs. Aujourd'hui, les cotons démaquillants et les mouchoirs, on les met beaucoup moins en avant. Pour plusieurs raisons, notamment parce que ça, commercialement, ça fonctionne un petit peu moins bien. Et on met à fond sur essuie-tout et éponge. Éponge étant notre vrai produit star. On s'en est rendu compte directement sur Ulule, mais même avant, en fait, parce qu'en amont de la campagne du crowdfunding, on avait fait de la collecte de leads. Et du coup, tu voyais, en travaillant tes landing pages, en changeant l'ordre des produits et tout ça, lesquels produits étaient les plus cliqués. En fait, on voyait déjà que c'était les points d'assaut.
Ok, je comprends. Okay. Et donc, ça, c'est un truc que je ne savais pas du tout, qu'on pouvait éventuellement lancer une seconde campagne sur Ulule. Est-ce qu'il y a des critères particuliers pour te permettre d'en lancer une seconde ?
Non, il n'y a pas de critères particuliers. Ils sont assez flex. Il y a plein de gens qui font des... Il y a plusieurs marques qui font des campagnes et qui lancent un produit. Alors, c'est souvent pour des produits culturels, par exemple. Là, il y a une campagne qui a été lancée par Lumi. Je ne sais pas si tu vois les... C'est des boîtes à histoires qui racontent des histoires aux enfants, qui racontent des histoires vocales aux enfants. Et ils ont lancé leur produit pour ados sur Ulule. C'est un énorme carton. Et pourtant, c'est une boîte qui est bien installée pour eux.
Ok, d'accord. Ok, donc
c'est... Ouais, lancé librement sur Ulule.
Je ne savais pas du tout. Et je trouve ça hyper intéressant parce que tu peux utiliser Ulule et le crowdfunding et la puissance de la communauté pour lancer des nouveaux produits où tu n'es pas encore trop sûr de si ça va marcher, ça va intéresser beaucoup de monde. Donc, je ne savais pas du tout. Après, c'est un choix à faire. Et je pense que pour vous, il a été payant parce que la deuxième campagne, elle a été plutôt bonne. Je pense que c'est une des meilleures qui a eu lieu en France, je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je me trompe
On a dépassé le record de vente pour de pré-vente, du coup, pour un lancement de produit.
Okay.
Il y avait des produits culturels qui étaient mieux marchés que nous, mais nous, on a vraiment exposé les records sur la partie lancement de produit, avec une petite idée qui est que nous, on a fait une campagne beaucoup plus longue que la moyenne. C'est-à-dire que la campagne officielle, généralement, on conseillait à faire durer un mois et demi, 2 mois. Et il y a un truc un peu nouveau qu'avait mis en place Ulule à l'époque, qui était les prolongations, qui consistait à juste laisser la campagne ouverte après la campagne officielle, entre guillemets, et te servir en fait de ta page Ulule comme dans e-commerce.
Et c'est ce que vous avez fait?
C'est ce qu'on a fait. Au début, on s'est dit, bon, on va aller capter les 2-3 retardataires qui ont oublié d'aller, d'aller contribuer sur la campagne au bon moment. Et en fait, c'est là que les ads ont commencé à cartonner. Donc, pour t'expliquer un petit peu hein, sur Ulule, on était déjà très méta-dépendant. On avait fait l'essentiel de l'acquisition sur Meta. Pour des raisons de tracking aussi, c'est quasiment le seul truc que tu peux faire en payant, en fait, Meta, parce que le reste, tu peux pas trop poser de pixels ou autre. Google Ads, ça n'a pas trop de sens en vrai pour de la préférence de venir te frotter avec des acteurs qui eux vendent déjà des produits. Donc on était vraiment très méta-dépendant. On avait lancé au mois de juin. À l'époque, on ne savait pas, mais le mois de juin, c'est pas un bon mois pour nos produits. Donc on avait à peu près l'équivalent de 100 000 euros sur la campagne officielle, ce qui était déjà bien, hein, mais un dessous de nos objectifs. Et
Ok.
là, on se dit, OK, le mois de juillet s'embraye juste après la campagne. On se dit, bon, voilà, c'est des vacances en plus et je ne vais pas trop acheter des pompes pendant les vacances. En fait, non, c'est complètement l'inverse qui s'est produit. On a commencé à avoir des ads qui cartonnaient et ça a très, très bien vendu au mois de juillet-août. On a poursuivi, en fait, la campagne jusqu'au moment où on a lancé notre site e-commerce sur Shopify. Donc, en fait, on a fait une campagne qui a duré 3 mois et je crois qu'on est les premiers à avoir fait ça. En tout cas, je n'ai pas
C'est
connaissance
vrai?
d'autres marques qui aient fait ça.
Ah,
Et voilà, en fait, on a fait 400 000 euros en plus sur la campagne, alors qu'on avait fait que 100 000 au début, quoi. Donc, l'essentiel de notre campagne nulle, en fait, c'était de la prolongation.
ok, c'est hyper intéressant. Et là, on était en fin 2022, c'est ça? Parce que vous êtes lancé en
On était
2021.
en fin 2022, exactement, ouais. Et c'est là qu'on
Ok,
lance.
d'accord. Donc c'est.
Eh ben, en janvier, allez, décembre 2022, on lance, mais c'est vraiment. Pour la forme et dire que l'activité commence vraiment en janvier 2023.
Ouais, finalement, ça fait vraiment un an que vous avez votre site web et là, vous pouvez bien sûr faire tout ce que vous voulez en termes de tracking et même d'upsell, de cross-sell. Alors qu'avant, finalement, vous étiez sur Ulule et vous avez fait l'équivalent de 400 000 euros de chiffre d'affaires sur Ulule uniquement. Vous avez quand même, enfin, du chiffre d'affaires de pré-vente, pardon. Donc, c'est énorme. C'est énorme.
Ouais, c'est en étape. On a, je crois qu'on était qu'à 500 euros, 1 000 euros de chiffre d'affaires
Ok.
sur Ulule. Donc, c'était
Et dans
super.
mes souvenirs, c'était super. Et dans mes souvenirs, c'était quand même passé également sur les médias. Est-ce que c'était avant la campagne Ulule, après, pendant? Et ça, j'ai l'impression que c'était dans les ads que
Ouais,
j'avais analysé.
effectivement. Donc, je t'ai parlé de la période un peu de juillet-août, tout ça a très bien cartonné en termes d'ads. Et ensuite, ça s'est un peu ralenti à la rentrée avec le CPM qui a augmenté. Et là, gros coup de pot, coup de téléphone de Quotidien, de la prod de Quotidien, pour me dire est-ce que vous voulez passer ce soir? En gros, c'était ça.
Ah oui.
On a répondu oui direct, on est allé. À l'époque, il y avait une petite pastille qui durait quelques minutes où il y avait un inventeur qui présentait son produit. Donc, on a eu la chance d'en faire partie. Tout le truc n'a pas duré très longtemps parce que c'était un peu border et commençait à avoir d'autres entrepreneurs et d'autres marques qui ont un peu trop fait leur téléachat et du coup je crois qu'ils l'ont un peu arrêté derrière. Mais en tout cas, nous on a eu la chance de passer dessus et ça a bien marché au moment du passage. Mais surtout, en fait, c'est vraiment le passage, c'était pas si important que ça. Ce qui a cartonné, c'est qu'on a lancé la vidéo telle quelle, même pas montée à l'époque sur Meta. Et là, t'as l'effet
Ouais.
de réassurance avec les télé qui a fait des multiplicateurs sur Meta, quoi.
Alors ça j'avais vu, et je me rappelle encore, j'avais analysé les comptes, je me suis dit, ils ont une de ces vidéos sur, voilà, je peux pas dire les résultats, mais qui est très bonne en termes, enfin qui fait des très bonnes performances. Donc en effet, c'était un simple passage TV, je pense qu'il était format 16 neuvième, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute, peut-être que tu peux me rafraîchir la mémoire. Et voilà,
Possible,
c'était...
ouais. Pas trop,
C'est
mais je suis même pas sûr.
possible.
Donc, je
Et ce que
sais.
j'avais trouvé malin dans ce que vous avez fait, c'est que vous aviez itéré sur la vidéo, vous avez changé les, enfin, vous avez changé la longueur et peut-être même les hooks au niveau du passage. Donc ça, c'était plutôt bien. Très bonne
Ouais.
utilisation de Meta en tout cas pour cette campagne. Ouais, c'est-à-dire.
Simon, on était encore des petits pourcents de méta à l'époque. Hein. toute la campagne nulle. J'ai du mal à y croire aujourd'hui quand je le dis, mais on l'a fait sur la vidéo quotidien. On a peut-être monté en deux ou trois versions, mais c'est tout. Et 6 vidéos. Et okay. après 2-3 statiques, mais pas beaucoup plus.
Ok, ouais, c'est très peu de créa finalement. Alors que là, je pense qu'il y en a beaucoup plus qui tournent. C'est vrai que sur 2023, ben, c'est là où vous avez accéléré sur Meta. Ça, je compte bien y revenir dans la suite du podcast. Donc, enfin, moi, de ce que j'ai compris, 2023, vous avez continué à vous développer en digital, essentiellement grâce à Meta et également grâce à Google, je pense. Et puis en 2024, vous êtes passé sur Qui va être mon associé. Et on sait que c'est une émission très forte pour les entrepreneurs. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois que vous êtes passé. Il y a toujours un effet Qui va être mon associé. Donc là, je voulais peut-être revenir sur déjà les coulisses du passage, déjà comment vous avez réussi à passer. Et puis après, quel a été l'effet pour vous? Est-ce qu'il y a vraiment eu cet effet post qui veut m'intéresser, qui fait que vous avez réussi à passer un nouveau cap de CA ou même de trafic? Et on reviendra également sur peut-être un peu ce que vous avez fait en termes marketing pour profiter au maximum de ce passage dans le digital. Donc voilà, c'est beaucoup de questions, mais je te propose de commencer par peut-être le début, genre comment vous avez pu arriver sur l'émission? Est-ce que vous avez postulé? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Comment ça se passe?
Alors, on a effectivement postulé. Il y a tout un process de candidature qui est assez long et difficile. On avait fait une vidéo déjà. On avait mis vraiment des moyens importants dedans, que ce soit en termes de prod, en termes d'écriture et tout ça, pour faire une vidéo sympa qu'on avait envoyé à la prod. Après, il y a tout un process. En fait, il y a des journalistes qui viennent défendre ton dossier auprès de la prise de casting, puis auprès de la prod, puis auprès d'M6. Et nous, on n'avait pas passé à l'étape de la directrice de prod qui avait pas trop kiffé le concept des éponges, quoi. Je ne crois pas qu'elle avait vu notre vidéo à l'époque. Je pense qu'elle avait juste mis un no-go sur le produit, quoi. Okay. Et donc là, on était un peu déçus. On était au mois de juin 2023. Et septembre 2023, on sort un coup de fil de la prod en disant, voilà, il y a une place qui vient de se libérer. Est-ce que ça vous intéresse ou pas de repostuler? Donc là, on renvoie la vidéo est validée par la directrice de casting qui, pour l'anecdote, pendant ses vacances, avait pu parler de nos éponges avec sa belle-sœur, je crois, qui était fan de nous. Donc ça a un petit peu aidé.
Super, ça a beaucoup aidé, ouais.
C'est clair. Après, la vidéo a été validée aussi par la prod, par M6, et donc là c'était bon. Sauf que c'était une semaine avant le tournage. Pour info, le tournage, je crois que c'est en septembre, octobre, donc bien avant la diffusion de l'émission. Et là, on s'est mis en mode commando pour tout préparer en une semaine et faire en sorte que Benjamin soit fin prêt pour le passage.
Ok, et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai déjà entendu qu'il y a des. Quand on fait l'émission, on fait l'enregistrement plus de 6 mois avant. Et donc vous l'avez fait finalement 3 mois avant, donc c'était beaucoup plus short au niveau timing, non?
Ouais, je crois que c'était fin septembre ou début octobre. Donc. Okay. Ouais,
mais ça laissait peu de temps pour se préparer finalement. Ça laissait peu de temps.
Alors, très peu de temps, mais après, en fait, généralement, les gens, ils ont la réponse au mois de juin et ils passent en octobre. Donc, ils ont 3 mois pour se préparer. Nous, on a eu une semaine.
C'est ça que je veux dire. C'est que tu n'avais qu'une semaine, donc c'est pas énorme et c'est pas évident parce que j'ai vu le passage de Benjamin. C'est que les investisseurs, ils sont durs, quoi. Ils te posent beaucoup de questions. S'ils ne croient pas en ton projet, ils te le disent directement et ça peut mettre mal à l'aise. Et je trouve qu'il s'est bien défendu. Surtout quand il parlait d'international, où je trouve que les investisseurs, ils n'ont pas assez pris en compte ce potentiel que tu peux avoir sur le marché, enfin sur d'autres marchés comme les USA. Donc voilà, c'est intéressant. Et peut-être, je ne sais pas si toi, tu as des premiers retours sur un avis sur le passage en lui-même. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment sur ce passage, peut-être? Parce que je peux le dire, vous n'avez pas levé de fonds sur Qui va être mon associé.
Non, on n'a pas levé de fonds. Alors, plusieurs choses. Déjà, l'aisance de Benjamin sur le plateau. En fait, on sortait d'une. Alors déjà, il est à l'aise parce que c'est un ex-comédien. Il est très bon pitcher. On venait de sortir d'une levée de fonds, en fait. On venait de lever un montant qui nous valorisait à 5 millions. C'est des choses qu'on ne voit pas forcément sur le montage qui est diffusé parce que voilà, on a un passage de 45 minutes ou une heure devant le jury. Il y a plein de trucs qui sont coupés. Et donc, les discussions un peu techniques sur. Le fait qu'on est levé avant à telle valo et qu'on ne pouvait pas trop négocier la valo et tout ça, c'est des trucs qui ne passent pas forcément, qui en l'occurrence là ont été coupés. Ce qui a fait aussi que ils ne pouvaient pas trop faire de contre-propale en fait, le jury, et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas levé aussi. Après, voilà, nous on est levé, financièrement plutôt confortable. On faisait l'émission évidemment pour la visibilité que ça apporte. Et on aurait été content aussi d'avoir un investisseur, mais plus pour l'apport humain que ça représentait. Par exemple, si Tony Parker avait ça aurait été super. Pour se dire demain, on va attaquer le marché US avec Tony Parker à nos côtés, c'est une folie, quoi. Mais
bon, c'est clair. C'est clair.
Tout à fait. Mais en vrai, voilà. Comment dire, il n'y a que du bénéfice et que du positif à retirer. Quelle émission aujourd'hui te permet d'avoir 15 minutes en prime time à la télé pour parler de ta boîte, bah, il n'y en a qu'une seule, c'est qui va être mon associé. Donc,
c'est ça. C'est une
opportunité de ouf.
C'est clair. Ouais, c'est que tu as les chiffres sur le nombre de personnes qui vous voient dans l'émission, puis après qui vont sur le site, puis après qui commandent. Enfin, moi, je suis vraiment intéressé de savoir au niveau funnel marketing, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, sur cette première journée, ou les deux premières journées, au niveau, bah, je te dis, trafic et vente sur un site e-commerce, si tu es ouvert à les partager, bien sûr.
Complètement. Il y a un truc qui est important sur qui va être mon associé, mais tu n'as pas trop la main dessus, c'est est-ce que tu passes pendant la coupure pub ou non. Parce que c'est là que les gens vont aller sur ton site. On a eu cette chance-là. Si mes souvenirs sont bons, on a fait environ 50 ou 60 000 visites au moment du passage. Donc, du coup, c'est la courbe qui fait le plus comme ça de toutes. C'est la courbe de tes visites, parce qu'il se passe un truc de ouf, qui est que voilà, t'as un volume de visites complètement hallucinant qui vient sur ton site, mais ça redescend aussi très vite. C'est-à-dire, une heure après, bah, divisé par 10 par rapport à ton pic. Voilà. Les ventes qui suivent derrière, nous, globalement, on était assez contents, on a maintenu un assez bon taux de conversion, autour de 3% pour toutes les missions. Donc c'était plutôt assez cool. Et en termes de chiffre d'affaires, on a fait sur notre site et Amazon confondu, on a fait 150 000 euros à peu près en 24 heures.
Ouais. Ah, je sais que ça c'est beaucoup ça. Je sais qu'il y en a qui, déjà quand ils font 100 000 euros, ils sont contents. Donc 150 000 en une journée ou en une soirée, c'est hyper bien. Et puis après, il y a toujours les jours suivants, puisqu'en fait, il y a des replays de l'émission, il y a des gens qui voient plus tard. Donc je présume que tu voyais encore un effet les premiers jours après la diffusion.
Ouais, complètement. En fait, il y a un effet où tu fais le week-end qui suit, tu fais les chutes de ma boue encore. Ouais, donc c'est clair et net. Et au bout d'une semaine, ça ralentit progressivement. Mais voilà, aujourd'hui, mon chiffre d'affaires quotidien, il est 2 à 3 fois supérieur à ce que je faisais avant l'émission.
2 à 3 fois supérieur. Ah, c'est incroyable. Et ton budget ads, est-ce qu'il a bougé ou il est le même?
Non, mes budgets ont augmenté.
Mes budgets ont augmenté. T'as augmenté tes budgets.
C'est que j'ai un meilleur chiffre d'affaires quotidien.
Ouais, c'est vraiment super. Enfin, en tout cas, bravo. Mais Michael Pan de Flotte, il m'a dit la même chose. Il m'a dit, moi, mes budgets ads, du jour au lendemain, bah, ils ont augmenté. Je ne me rappelle plus de combien, mais je pense que comme toi, 2 à 3 fois. Et il a réussi à maintenir ça sur du très long terme, sur les 2 ans qui ont suivi. Là, ils investissent encore plus. Et c'est vrai que vous, si vous avez augmenté les budgets, je présume que c'est parce que ça marche bien, c'est parce que ça suit en termes de vente sur le site. Revenons peut-être sur les actions que vous avez mises en place dans le digital. C'est-à-dire, je suppose que quand l'émission a eu lieu, ben, le site était prêt. Donc, ça, évidemment, au niveau du serveur, il faut faire attention. Mais au niveau marketing, vous avez mis en place est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers sur le site ou via le CRM ou via les ads ou encore d'autres plateformes?
Complètement. On a beaucoup travaillé sur tous les aspects hein, pour être prêt le jour J. Il se trouve qu'on était la première émission à passer. Hein. Enfin, on est passé pour la première émission. Donc, c'était assez chaud en vrai. Moi, j'étais en vacances tranquille décembre, en me disant bon, a priori, on passera pas les premiers parce qu'on n'a pas reçu de coup de fil nos 10 ans qu'on passait. Donc, j'étais content de pouvoir passer un peu de temps en famille. Et là, le 28 décembre, le fameux coup de fil nous disant vous passez les premiers le 17. Et là, énorme rush. J'ai un peu écourté mes vacances et on a taffé comme des. On est malade, on peut le dire, pendant 3 semaines pour être prêt le jour J. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Site web, ads et email, en gros, qui fait travailler à fond. Donc, site web, on l'a beaucoup retravaillé, on a mis beaucoup plus de mains sur les sites, là où à l'époque, on était encore très, très actifs sur le produit. Donc voilà, on a mis à jour vraiment à fond, surtout la home page. En fait, les pages produits, on n'a pas trop voulu y toucher parce que c'est là que se joue vraiment la conversion, donc un peu tricky d'aller tout bouleverser la veille d'un moment où tu vas recevoir beaucoup de trafic sur le site. Donc on focus vraiment sur là où l'image de marque peut transparaître le plus, Donc la home page et la navigation, en gros, voilà, le header, ainsi de suite. Et une page, une landing page qui va être ton associé. On a pas mal bossé aussi.
Ouais, j'ai vu. J'ai vu que sur la home page, ça a pas mal bougé et qu'il y a beaucoup plus d'humains. Ok.
Ouais.
Et ok, super intéressant. Et, et ensuite.
Donc on a fait des packs aussi dédiés. On a fait trois packs dédiés qui vont être mon associé. C'est-à-dire, voilà, ils sont brandés qui vont être mon associé. Et puis il y avait des réductions spéciales dessus. Et on a fait aussi un genre de jeu concours un peu spécial via une roue de la fortune. Donc assez classique, mais pareil, aux couleurs de qui va être mon associé pour aller récupérer un maximum de mails. Et pendant deux à trois semaines, on avait une réduction de 15% pour l'inscription à la newsletter, là où généralement, on est plutôt autour de 10%. Voilà, pour booster aussi, parce qu'il y a du chiffre d'affaires direct que tu vas faire, mais aussi toute la base mail de personnes venir cumuler qui vont potentiellement acheter trois jours après, une semaine après ou un mois après, quoi.
Ouais, hyper intéressant tous ces dispositifs. Celui que je préfère, c'est la roue de la fortune, enfin la petite roue que tu as sur le site, parce qu'en fait, ça te permet vraiment de. Enfin, il y a l'aspect un peu gamification qui fait que tu as envie d'y jouer pour voir ce que tu vas gagner. Donc, je suppose que niveau récolte d'emails, ça a dû être énorme. Je sais pas si tu as aussi les stats de ça en termes de récolte d'emails.
Je crois qu'au bout de quelques jours, on était à 20 000 mails collectés. Donc, c'est important. Et puis, je ne pourrais plus dire exactement combien de mails on est en base là, parce qu'entre ceux qui sont. Qui sont des inscrits, ceux qui sont encore vraiment actifs, mais on est à autour de 100 000 euros de mails actifs.
Ah ouais,
non, 100,
je veux dire 100 000.
100 000 mails adressables en tout avec ce qu'on avait déjà avant. Donc c'est quand même assez.
Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mais donc du coup, c'était très bonne idée parce que je pense qu'on n'y pense pas forcément, mais quand tu passes sur Kevin Nancy, tu te dis bon, ok, je vais essayer de faire le maximum de choses à faire possible. Alors que tu peux aussi essayer d'aller chercher le maximum de personnes possible pour ta base mail, parce qu'on sait que le CRM, c'est quand même quelque chose qui aide à aller chercher de la vente, que ce soit en acquisition, en rétention. Les packs aussi, je trouvais ça sympa. Donc, quand tu dis pack, mon Kevin Nancy, c'était quelque chose de spécifique, c'est-à-dire un mélange de différents produits ou c'est un bundle simplement?
Composition de produits qu'on avait un peu changé, mais globalement il n'y a pas de grosses différences à part le fait qu'il y ait marqué qui va être mon associé dessus et une promo dessus.
Que c'est bien parce qu'en fait tu arrives, c'est personnalisé, tu dis ah bah tiens, moi je viens de Kevin m'associer, tu vois le pack, donc tout naturellement tu cliques dessus et, et ça t'amène rapidement sur la page produit.
Exactement, l'idée c'était vraiment d'aller guider les utilisateurs vers là où on voulait qu'ils aillent. Donc, s'en fichait la vie, ouais, qui va être mon associé, il nous a vu sur qui va être mon associé, il clique sur le pack, il l'achète.
Je trouve que c'est très malin, mais je pense que c'est bien. Je n'ai pas forcément entendu ça de la part des autres que j'ai eu sur le podcast qui vont pas être qui va être mon associé. Et puis après, celle que je me pose toujours en tant que média buyer, c'est sur le retargeting. Je suppose qu'à ce moment-là, vous dites ben, le soir de l'émission, j'ai envie qu'on me voit le plus possible en ads. Donc du coup, je suppose que vous avez augmenté vos budgets de retargeting à ce moment-là bien précis, en plus des budgets d'acquisition.
Ouais, bah, on a augmenté notre budget de retargeting, surtout après l'émission en fait, parce que c'est là que y a eu un énorme pic de trafic. Ouais. Nous, on a, je rentre un peu dans le détail, hein, c'est peut-être un peu trop tôt, mais en méta, on a une campagne qui est dédiée au remarketing, qu'on pilote au repeat, qu'on essaie de garder autour de 5 par semaine.
Ouais, c'est bien.
Et donc, au fur et à mesure que y a ton bassin d'audience retargetable qui augmente, tu augmentes le but. C'est assez mécanique.
Simplement, ouais. Assez mécanique sur le coup. C'est assez mécanique, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, tu vois, on peut aborder le sujet Facebook Ads. Enfin, déjà, je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont compris que vous étiez assez méta-dépendant. Donc, je présume que si je te pose la question, quels sont vos canaux d'acquisition en début, aujourd'hui, tu vas me dire par Meta, Google.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous. Partagez-le sur les médias sociaux en me taguant. Ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.